Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, entretien avec des femmes, avec des hommes, médecins, praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Professeur Marie-Josée Tanoano, bonjour.
Bonjour madame.
Professeur Tanoano, vous êtes otorhinolaryngologiste, chirurgien cervico-facial, vous êtes chef de service ORL et ambulatoire pédiatrique ici à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire où nous avons enregistré cette émission, ce portrait. Professeur Tanoano, à partir de quand est-ce que vous avez su que vous vouliez être médecin ?
Je dirais que j'ai toujours voulu être médecin. Mes parents parlaient souvent des médecins. Ils souhaitaient avoir un médecin dans la famille. Parmi les enfants, ils se disaient que j'avais peut-être les possibilités, les aptitudes. Et puis, dans les dernières années de lycée, j'ai eu la chance de rencontrer un aîné qui était interne des hôpitaux. Et après, avec ce contact, je me suis rendu compte que c'était un métier comme tout autre, mais surtout que ça répondait bien à ma vocation. Et puis, enfin, le dernier élément peut-être qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai eu mon bac relativement tôt. Et je me suis dit, non, je suis trop jeune pour aller dans la vie active. Et avec des études de médecine, c'est sûr que j'en ai pour au minimum 7 à 8 ans. Donc, j'aurai le temps d'être un peu plus mature pour affronter la vie professionnelle.
C'est un parcours inhabituel, professeur Tanoano, en quelque sorte, de se frotter à la pratique avant d'aller vers la théorie.
Avant d'aller vers la théorie, effectivement. Mais en fait, j'étais pas tellement sûre de moi parce que je suis assez réservée. Donc, je me demandais comment j'allais réagir face à des patients, face à des blessés, etc. Donc, j'ai eu envie de découvrir le métier avant de m'y lancer.
Vous avez utilisé déjà ce mot de vocation. C'était la vocation de quoi ? De guérir, de communiquer, de soigner, d'être utile ?
D'être utile d'abord, et puis d'apporter quelque chose aux patients, aux familles, en fait.
Vous disiez, je voulais faire des études longues. La réalité ne vous a pas démenti. Vous avez fait des études très longues, puisque vous avez même été professeur. Vous avez deux spécialités. Est-ce que vous vouliez d'emblée avoir ce parcours, on va dire, un peu hors norme, ou est-ce que c'est arrivé comme ça ?
Je pense que c'est arrivé au fil du temps, parce que au départ, je voulais être médecin. Je n'avais pas vraiment connaissance de ce volet d'enseignant, de chercheur en médecine. Donc, au début, c'était vraiment être médecin. Et cette aînée dont je parlais à l'entrée était interne, donc déjà sur la voie de l'enseignement. Et auprès de lui, j'ai découvert, cette volonté de transmettre, apprendre à d'autres. Et puis, j'ai fait de belles rencontres au cours de ma formation. Et puis, voilà, tout ça m'a aidé à faire mon choix.
Votre choix, pédiatrie, ORL, dans quel ordre ?
Pédiatrie d'abord, parce que, comme je vous disais, j'étais assez jeune déjà, et puis je me sentais un peu plus en confiance avec des enfants. Je me disais, les personnes adultes se méfieraient de moi, auraient peur de voir un jeune médecin, n'auraient pas confiance, suffisamment confiance. Donc, naturellement, j'ai été attirée vers les enfants.
Malgré tout, on doit quand même se frotter un petit peu aux parents.
Oui, justement, je voudrais vous souligner un fait. J'ai été interne dès ma cinquième année de médecine et mon premier poste d'interne était un poste en pédiatrie. Ma première garde, je m'en souviendrai tout le temps. Un père de famille est arrivé avec son bébé souffrant. Il a demandé à voir le médecin de garde. Et moi, j'étais avec un autre patient. Les externes ont dit, dans 5 minutes, elle sera là, finie de s'occuper d'un patient. Et j'arrive, le père se retourne vers moi. Il me voit pas plus âgé que les externes. Il dit, non, j'ai demandé le médecin responsable de la garde. Et les autres lui disent, mais c'est elle. Et il dit, mais attendez, c'est pas parce qu'on s'occupe des enfants qu'il faut des enfants pour s'en occuper. Donc, j'étais un peu frustrée. Et puis, je lui dis, mais non, vous connaissez pas mon âge. Je suis pas un enfant. Il dit, ah, mais si, vous pouvez pas vous occuper de mon fils. Et il voulait rentrer avec son enfant qui était vraiment très, très mal en point. Donc, j'ai insisté, je lui ai dit, de toute façon, si j'avais pas les capacités, on m'aurait pas confié la garde. Donc, je vais m'occuper de votre fils et vous me direz après si j'ai pas bien fait. Et puis, à la fin de la garde, il a demandé à voir le chef de service, donc le lendemain, pour faire son rapport, pour expliquer un peu la méfiance, s'excuser. Et puis après, à partir de là, je pense que moi-même, j'ai repris confiance en moi et puis les gardes se sont bien passés.
Pédiatrie, donc ORL, on l'a dit, un professeur Tanon Anneau. Pas évident de trouver des illustrations pour décrire, pour évoquer cette spécialité médicale. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Lorsque l'on évoque la prise en charge de certaines pathologies, eh bien parfois, les images sont un peu plus parlantes ou révélatrices que les sons. Donc, la difficulté, c'est de donner à voir en radio. Alors, on va quand même essayer avec un document absolument bouleversant. Peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà vu, professeur Marie-Josée Tanon-Anneau. Un service ORL aux États-Unis, au Texas précisément. Une maman tient dans ses bras son bébé, un petit bébé, il a environ 8 mois. Et le bébé, eh bien, va pour la première fois l'entendre, car il est privé d'audition suite aux complications d'une méningite. Le nourrisson a une tétine dans la bouche, la maman s'adresse à lui, les yeux dans les yeux.
Hi, Jonathan. Stop the sucking.
Le bébé écarquille les yeux, ouvre la bouche et sa tétine tombe.
Could you hear that?
Il sourit. Il gazouille.
Hi.
We call that a late Christmas present.
Ce cadeau de Noël tardif pour cette maman, son bébé qui l'entend pour la première fois. Vous avez été témoin, professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, de cette relation, justement, un bébé, une maman, et grâce à cet implant cochléaire, vous allez nous expliquer de quoi il retourne exactement, eh bien, ce contact auditif qui est absolument essentiel pour l'attachement, pour justement donner cette affection.
Comme vous avez dit, c'est vraiment une partie vraiment importante de notre métier d'ORL. Découvrir que maintenant, il est possible de redonner l'audition à un enfant, c'est vraiment quelque chose qui me pousse chaque jour à faire plus dans ce domaine-là.
On va commencer par expliquer aux auditeurs, un implant cochléaire, c'est quoi précisément?
Alors, un implant cochléaire, c'est une sorte d'aide auditive, de prothèse auditive, qui a l'avantage de jouer le rôle en fait d'une oreille normale, d'une oreille interne. En fait, quand un enfant n'entend pas, il y a plusieurs parties de son oreille qui peuvent être atteintes. Et l'implant cochléaire, c'est cette prothèse auditive qui va permettre de faire renaître cette oreille qui n'entend pas du tout et pour laquelle on ne pouvait rien faire jusqu'à ces dernières années. Et donc, cet implant a deux parties. Une partie qui va être mise à l'intérieur de l'oreille et une autre partie qui sert un peu d'amplificateur qui va traiter le signal, ce que l'oreille ne fait plus de façon naturelle. Et ça, c'était une grande évolution dans la prise en charge de la surdité parce que quand une oreille était considérée comme morte, on ne pouvait plus lui redonner vie.
Comment est-ce que vous avez découvert cette technique? Dans quelles circonstances, professeur Tanon-Anneau?
Alors, j'ai découvert cette technique en France lors de mon stage de perfectionnement pour l'année 1997-1998. Et c'est justement au cours de cette année-là où le brevet de cette invention est tombé dans le domaine public. Et c'était un peu plus
accessible
dans le monde médical, enfin dans les pays développés, parce qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, ce n'est arrivé que très récemment. Et donc, à l'occasion de ce stage, il y avait une unité dans l'hôpital qui s'occupait justement de ces enfants sourds. C'était une unité qui était spécialisée dans le diagnostic déjà, parce qu'il fallait d'abord poser le diagnostic de la surdité chez ces tout-petits.
Bien sûr, avant que le bébé ne s'exprime, ne parle, donc c'est difficile à détecter.
Tout à fait. Et ces centres qui étaient capables de faire ces diagnostics ne sont pas nombreux, même à présent en France. Tous les hôpitaux, tous les services ORL ne sont pas capables de faire des diagnostics chez ces nouveau-nés, chez ces nourrissons. Et donc, l'hôpital où j'étais faisait partie des 3, je pense, hôpitaux de Paris capables de faire le diagnostic chez ces enfants très jeunes. Les premiers implants se faisaient dans cet hôpital-là. Donc, je suis arrivée en stage, j'ai découvert cette prothèse et on m'en parlait comme étant capable de redonner l'audition, même dans les surdités profondes. Au début, j'avoue que je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce n'est qu'un amplificateur. Et c'est à la pratique que j'ai découvert, effectivement, j'ai eu à assister à une intervention et au suivi d'un enfant, puisque j'étais en stage pour 1 an. Et j'ai vu la réalité, un nourrisson, effectivement, qui a retrouvé l'audition et qui a commencé à avoir un langage pour le bonheur des parents.
Vous disiez tout à l'heure cette technologie qui n'était pas accessible en Afrique. Aujourd'hui, c'est accessible. Et surtout, ce dépistage, c'est ça qui est important, de savoir au plus tôt quel est le niveau ou de dégradation de l'audition d'un enfant. Et vous travaillez précisément sur cette question clé, professeur Marie-Josée Tanoano, du dépistage néonatal de la surdité. C'est à quelle étape de la vie du bébé ?
Alors, le dépistage néonatal, comme l'intitulé le dit, c'est vraiment dans les premiers jours de vie de l'enfant. En France, il est proposé de façon systématique au nouveau-né avant son troisième jour de vie. Donc, je dirais 80% des nouveau-nés en France sont dépistés. En Côte d'Ivoire, nous ne le faisions pas parce que, bien que nous ayons appris la technique en France, il fallait des équipements, il fallait des personnes pour faire ce dépistage. Et ce n'est que récemment que nous avons institué ce dépistage systématique à l'hôpital où je suis, donc à l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville. Et surtout que nous avons écrit un projet qui a obtenu l'agrément de certaines structures et qui nous ont équipés en matériel permettant le dépistage. C'est un projet pilote, c'est vrai, on ne peut pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous avons équipé, grâce à ce projet, 12 centres. Nous avons formé 12 médecins. 12 équipes qui sont capables actuellement de réaliser ce dépistage néonatal.
Alors, la surdité, justement, problème de santé publique d'après l'OMS. En Côte d'Ivoire, 6 enfants sur 1000 naissent sourds, 5000 naissances dans le pays chaque année, c'est énorme. Donc, vous avez dit cette extension de ce projet à d'autres structures. 12 centres, est-ce que vous voulez aller plus loin ?
Évidemment, nous espérons aller plus loin. C'est pour cela que lors du lancement de ce projet pilote, nous avons associé le ministère de la Santé. Parce que ce programme ne peut pas être simplement l'affaire des ORL. Nous avons démontré la faisabilité de ce dépistage en Côte d'Ivoire. Nous avons démontré l'intérêt de réaliser ce dépistage. Et maintenant, nous espérons que l'État ivoirien, donc le ministère de la Santé publique, va nous accompagner en équipant progressivement toutes les structures publiques de Côte d'Ivoire.
Professeur Marie-Josée Tanoano, qui dit portrait, dit surtout dans le secteur de la santé, longue formation, on l'a souligné tout à l'heure. Et au cours de ces années d'apprentissage, eh bien, on fait des rencontres.
RFI.
On vous retrouve, professeur Evelyne Etéacré, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin ORL, vice-doyen chargé de la pédagogie et de la responsabilité sociale à l'UFR de sciences médicales d'Abidjan. Une première question donc sur celle qui était il y a quelques années Marie-Josée Tanoano. À l'époque, on ne l'appelait pas encore docteur. Elle était jeune interne. Vous la rencontrez à ce moment-là. Et qu'est-ce qui reste en mémoire chez vous de ces premiers instants, de cette première rencontre ?
Alors, ce qui m'a frappée, c'était sa jeunesse. Et lorsque je l'ai vue arriver dans ce service où il y avait une prédominance masculine, j'ai décidé tout de suite de la protéger un peu. Et par la suite, elle a montré par sa façon de travailler, par sa détermination, son engagement, que j'avais fait le bon choix.
Ça veut dire une allure jeune, mais très vite, beaucoup de personnalité.
Tout à fait, une très forte personnalité.
Ça se manifestait comment, cette personnalité ?
Lorsqu'on arrive dans le service, il y a les gardes, il y a les consultations, il y a l'hospitalisation. Elle était active dans tous les domaines.
Professeur Evelyne Etéacré, vous repérez donc cet élément un petit peu à part et une relation particulière s'installe entre vous. Justement, s'il y avait des mots pour décrire cette relation, vous diriez quoi ?
Quand je vois tout le chemin qu'elle a parcouru, je suis très fière.
Comme on serait un petit peu fière d'un enfant ?
Oui, tout à fait. Et il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est une phrase de Pierre-Marie qui dit « Il y a deux façons de faire la médecine, aller systématiquement au fond des choses et expédier les affaires courantes. » Et Marie-Josée, elle est de la trempe de ceux qui vont systématiquement au fond des choses. C'est quelqu'un qui est très bon, elle est généreuse, elle est affectueuse, elle est brillante et puis elle est bosseuse parce que tout en étant arrivée au sommet de sa carrière universitaire, elle a continué à faire des études pour élargir son champ de compétences. Et en plus, elle a trouvé le moyen, quand elle n'était pas encore professeure, de m'aider, de m'accompagner. Lorsque je préparais le concours d'agrégation en 2002, elle a acheté son billet d'avion, elle m'a accompagnée au Sénégal, et puis elle s'est occupée de moi, comme un maître devrait s'occuper de son élève. Son accompagnement était tellement important que les autres candidats étaient jaloux. Et je leur ai dit à ce moment-là, il fallait faire comme moi, avoir des enfants en faculté de médecine.
On comprend à vous entendre que vous ne ressentez pas de jalousie par rapport à sa réussite. C'est quelque chose que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu, par exemple, des hommes jaloux de son parcours, jaloux de son cheminement et de la poursuite, en quelque sorte, de ses idéaux, puisque vous disiez, elle prend le temps. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée au sommet qu'elle expédie les affaires courantes.
Non, en réalité, je pense que Marie-Josée suscite beaucoup, pas de jalousie, mais beaucoup d'admiration.
Et malgré tout, on peut arriver dans un milieu qui reste quand même pas mal masculin, de voir une femme progresser comme ça, mener la carrière professionnelle, la vie de famille, c'est quelque chose qui est finalement assez normal aujourd'hui ou que vous qualifieriez encore d'exceptionnel?
C'est exceptionnel parce que c'est, étant dans la même condition, on peut dire, c'est difficile d'allier le rôle de maman, d'épouse, de médecin et de professeur. Je vous avoue que lorsque je suis arrivée en ORL, je me suis fait reprocher quelques années après d'avoir attiré les femmes en ORL.
Finalement, ce reproche d'avoir féminisé votre discipline, votre spécialité, c'était plutôt un compliment.
Oui, c'était un compliment parce que finalement, les dames qui sont arrivées après moi, ce sont de vraies dames et j'en suis très fière.
Professeur Evelyne Etéacré qui témoignait, ça doit être plutôt rare d'avoir finalement sa professeure qu'on accompagne quand elle va passer des examens, professeur Marie-Josée Tanoano.
Oui, c'est vrai que c'était assez rare même à ce moment-là. Nous avions une relation assez particulière qui allait au-delà de la relation professionnelle. Je me suis sentie naturellement, je sais pas, obligée ou alors j'avais le devoir d'être auprès d'elle à ce moment-là. Autant à elle qu'à moi, ça nous a apporté.
Des rencontres décisives, vous avez cité aussi quand on a préparé cette émission le professeur Bertin Coissy, pourquoi?
Comme j'avais commencé par la pédiatrie, donc mon directeur de thèse m'avait particulièrement confié au professeur Coissy Bertin. Alors là, lui, il avait une toute autre façon de prendre soin de moi, si je peux dire ça de cette façon. Autant le professeur était la grande sœur, la maman progressivement, qui m'accompagnait dans ma formation. Autant professeur Coissy Bertin, c'était le monsieur qui, très 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 exigeant, qui attendait toujours le meilleur. Au premier abord, on avait plutôt l'impression que c'était quelqu'un de sévère, de strict, qui n'aimait pas les femmes particulièrement. C'était la première impression que j'avais eue. Mais en fait, il essayait de m'orienter sur un chemin particulier. En fait, pour lui, un médecin qui veut être enseignant devrait tout savoir de l'ORL. Et donc, ce monsieur m'a guidée sur le chemin, savoir de la spécialisation. C'est vraiment, il m'a donné le goût de l'enseignement par ses méthodes de travail. Et puis, il m'a tout appris de la chirurgie ORL. C'est un très, très, très grand chirurgien. Avec une très, très grande patience, il m'a initié à la chirurgie ORL. Et donc, vraiment, lui, c'est vraiment mon maître.
Rigueur et patience. Professeur Marie-Josée Tanoano, vous exercez aujourd'hui dans une structure de santé privée. Vous avez cité Yopougon, Cocody, ce sont des CHU, des espaces publics de soins. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'offre médicale, plus globalement sur l'accès aux soins en Côte d'Ivoire? Vous avez vu les deux systèmes, donc vous avez un recul, vous pouvez juger.
Au début de mon internat, il y avait une offre de soins qui, à mon avis, était meilleure que celle d'aujourd'hui. Un patient qui arrivait dans un service public, il avait tout de suite les premiers soins, tout était à disposition, et des médecins, et des patients qui arrivaient. Au fil du temps, le mode de gestion des patients dans les hôpitaux publics a un peu changé. Il fallait parfois faire face à certaines difficultés des patients pour avoir accès aux premiers soins. Ce sont des choses qui sont en train d'être corrigées, qui ont plus ou moins été corrigées, mais qui ont quand même marqué notre exercice en milieu public. Et puis, nous sommes arrivés dans cette structure. C'est vrai qu'est un établissement privé, mais à but non lucratif. Nous faisons beaucoup de social. Nous recevons
l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville.
De Bingerville, oui. Cette structure, je rappelle que c'est vraiment l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville dont il s'agit effectivement. Au sein de l'hôpital, nous avons deux types de patientèle. Donc des patients qui peuvent payer eux-mêmes les soins parce que soit ils ont une assurance médicale privée, soit ils en ont les moyens. Mais nous recevons également énormément de patients qui sont des cas sociaux, qui sont des indigents qui n'ont pas les moyens de faire face aux frais de santé.
C'est estimé à quelle proportion des personnes qui viennent consulter ici?
25 à 30%. Et c'est vraiment une des directives que nous avons. Nous avons l'obligation de recevoir ces indigents et de leur prodiguer des soins au même titre et de même qualité que les patients payants. Et donc, ici, à l'hôpital Mère-Enfant, nous améliorons l'accès aux soins, mais nous avons un peu plus aussi d'empathie vis-à-vis des patients. C'est un hôpital, c'est vrai, une structure privée, mais la patientèle, vraiment, est diverse.
Avec un équipement hors normes pour la Côte d'Ivoire, on peut le souligner. On a visité cette structure pour préparer cette émission. On est passé devant des salles, aussi bien qu'il s'agisse de l'aspect technique que de l'aspect de séjour, tout simplement. C'est absolument exceptionnel pour, on peut le dire, un pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Okay. Est-ce que c'est ça qui vous a donné davantage envie? Est-ce que vous en aviez, on va dire, pour caricaturer peut-être un petit peu, marre du public, ou c'était vraiment envie de travailler, d'avoir les moyens de travailler comme vous le souhaitiez?
Je pense que c'était plus avoir envie de travailler comme on le souhaitait. Et puis, il faut souligner que j'avais vraiment envie de me retrouver dans un environnement dédié à l'enfant. Et c'est ce que ce projet d'hôpital mère-enfant nous offrait. Quand le professeur Dassidvin, qui est la directrice médicale et scientifique de cet établissement, nous a approchés pour faire partie de ce projet, je n'ai pas hésité un seul instant parce que déjà, cela répondait à mon objectif de me retrouver dans un environnement pédiatrique. Et vu qu'on nous associait à la conception du projet, nous étions sûrs d'avoir les moyens de travailler correctement.
Avec aussi des financements extérieurs pour certains projets, y compris dans le public. D'ailleurs, on doit se tourner parfois vers des financements extérieurs, des fonds privés, des fonds caritatifs. Est-ce qu'il vous arrive, professeur Marie-Josée Tanoano, de vous transformer en quelque sorte en démarcheuse pour aller chercher des fonds ou ça ne fait pas partie de vos attributions?
Pour financer des soins en ORL, oui. Parce que en même temps, je suis présidente de la Société ivoirienne d'ORL. Et à ce titre, nous avons mené depuis de longues années des campagnes de dépistage systématique de la surdité. Et nous avons été confrontés à des problèmes. Par exemple, à l'issue des dépistages, nous nous retrouvions avec un certain nombre d'enfants scolarisés mais malentendants. Et par exemple, dans ces cas-là, il fallait les aider à avoir une prothèse auditive, pas du niveau d'un implant cochléaire qui coûte encore assez cher, mais même un simple appareil auditif pour leur permettre de terminer la scolarité dans de bonnes conditions. Et dans ces cas-là, nous étions obligés effectivement de chercher des fonds auprès de fondations ou auprès d'ONG pour offrir ces appareils à ces enfants, à ces élèves, leur permettant ainsi de finaliser une scolarité qui était déjà entamée. Souvent, on a des enfants en situation d'échec scolaire qui subissent, on va dire, le courroux, la colère des parents. Il est paresseux, il veut pas faire d'efforts à l'école. Alors qu'une mauvaise audition, même que ce soit de quelques décibels, cela peut gêner l'apprentissage.
Ça veut dire qu'au-delà de la technique, même au-delà du savoir médical, il faut aussi informer les parents, il faut faire tout un travail de prévention en disant si votre enfant apprend mal, ce n'est pas forcément une question de volonté.
Tout à fait, et c'est ce que nous essayons de faire. Nos campagnes de dépistage étaient toujours associées à des campagnes de sensibilisation, des informations au niveau de la télévision nationale, de la presse, et nous passions dans les écoles, faisions des conférences. Et également, nous avions profité de ces séances pour sensibiliser également le personnel enseignant. Ce que nous avions remarqué également, c'est que au début de nos campagnes de dépistage, la population ne savait vraiment pas ce que c'était qu'un ORL. Quand on parlait de surdité, pour eux, c'était une malédiction, c'était un fait qui était arrivé et qu'il n'y avait rien à faire pour ces enfants sourds, profonds et parfois donc muets. Et donc, à l'issue de ces nombreuses émissions, de ces informations, nous avons de plus en plus de parents qui viennent spontanément vers l'ORL pour demander un contrôle de l'audition. Et parfois, même devant un simple retard de langage, parce qu'on leur a expliqué qu'un enfant qui n'entend pas bien ne parlera pas, ils viennent spontanément, ce qui nous permet d'avoir des diagnostics à des âges beaucoup plus précoces.
Alors tout à l'heure, on a pu entendre le témoignage de celles qui vous ont en quelque sorte montré le chemin, la voie, vous disiez maman ou mentor. Tout de suite, on va entendre l'élève. Nous sommes en ligne avec le docteur Dialoussane Ogogone. Bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous êtes médecin ORL. On a enregistré cet entretien peu avant de notre rencontre avec le professeur Marie-Josée Tanoano. Docteur Sanogogone, vous travaillez également dans cet hôpital de Bingerville. C'est elle, professeur Tanoano, votre chef de service aujourd'hui. Et elle a encadré, il y a quelques années, votre thèse de doctorat de médecine. Comment est-ce que vous décrivez aujourd'hui votre collaboration?
C'est une collaboration très, très magnifique, très merveilleuse, parce que c'est une dame qui vraiment incarne la victoire de la femme africaine. Elle travaille toujours avec la même sincérité infatigable depuis que je l'ai connue.
Pour vous, cette dimension féminine dans l'exercice de son métier, de sa profession de médecin, c'est quelque chose d'important?
Très, très important.
Ça se manifeste comment?
Cette femme, elle est battante, très dynamique, très affectueuse et très, très respectueuse.
Justement, plusieurs facettes, à la fois professeur, médecin. Est-ce que vous diriez aussi, docteur Sanogo, que Marie-Josée Tanoano a une figure, y compris au travail, une figure maternelle?
Oui, c'est une dame qui est très maternelle. C'est vrai qu'au travail, c'est le travail, comme je l'ai dit. Il faut travailler, il faut avoir de bons résultats. À la maison, maternelle, elle est très, très affectueuse envers ses enfants. J'ai tendance à la taquiner pour qu'on puisse rire. Et je la découvre autrement que ce qu'on voit au boulot, en fait. Elle a toutes ses qualités, en fait, d'être professionnelle et à la fois maternelle et professionnelle.
Ce qui va parfaitement bien pour la pédiatrie, justement, dans vos relations aussi bien avec les parents qu'avec les enfants qu'il faut soigner. Est-ce qu'il y a des choses particulières, par exemple, une anecdote qui vous revient en tête?
Généralement, quand on fait les consultations, on a tendance à jouer, à faire des gestes, des acrobaties pour que les enfants rient, pour que les enfants ne pleurent pas, pour que les enfants n'aient pas peur du matériel qu'on utilise. Et le peu de consultations que j'ai pu faire avec elle, vraiment, elle était vraiment à la disposition de l'enfant, toujours attendre que l'enfant coopère, en fait.
Réussir à préparer l'enfant aux soins, professeur Marie-Josée Tanoano est chef de service. Comment est-ce que vous décrivez son autorité?
Elle n'est pas autoritaire. Elle n'impose pas ses idées. C'est une dame qui est très honnête dans le travail. Ses idées s'imposent d'elle-même. Parce que quand on voit la logique de la chose, on s'aligne automatiquement sur ce qu'elle dit. Voilà.
Dans la langue française, il y a une expression qui dit « poigne de fer dans gants de velours ». Est-ce que vous pensez que ça s'applique au professeur Tanoano, cette façon d'être à la fois ferme et tendre?
J'adhère complètement à ce que vous avez dit. Oui, je pense bien.
Alors pour tous les portraits qu'on brosse dans cette émission, on entend énormément, énormément de qualités. Malgré tout, personne n'est parfait, y compris le professeur Tanoano. Un petit défaut qui vous vient en tête?
Le seul défaut que le professeur a, c'est le travail. Si vous ne voulez pas travailler, ne la suivez pas.
Est-ce que vous avez un petit nom familier duquel vous l'affublez, un petit nom pour l'appeler qui n'est pas justement un nom professionnel?
Mamie, ça l'attendrit, ça la fait sourire et tout ça. Mamie, elle se met à sourire et ça détend un peu l'atmosphère.
Mamie, professeur Marie-Josée Tanoano, vous n'en demandiez pas tant. Et on sent vraiment la connivence et puis le rapport à la fois personnel et professionnel. Vous êtes chef de service, on l'a dit, vous êtes professeur. C'est quoi pour vous la transmission?
Pour moi, la transmission, c'est de faire en sorte que les étudiants ou les apprenants qui vous sont confiés réussissent à faire mieux que ce que vous savez faire. Je pense que je fais bien quand je me rends compte que mon élève en griffe fait mieux que moi. Et en fait, c'est un des traits que le professeur Kwasi Bertin m'a enseigné. On ne peut pas vouloir rester toujours au-dessus, vouloir toujours être le maître. Il faut vraiment, je pense, apprendre aux autres tout ce qu'on sait et faire en sorte que cette personne ait les capacités d'apprendre plus ou de faire mieux.
Et ça rend fier.
Ça rend très, très fier.
Professeur Marie-Josée Tanoano, en préparant cette émission, vous nous avez confié votre goût pour un genre musical qui vient de la Caraïbe, Guadeloupe-Martinique. Et à vous, la spécialiste des tests d'audition, à votre tour d'être testée, on va vous laisser écouter. Est-ce que vous reconnaissez cette voix?
Marie-Josée Tanoano, je vous fais un petit coucou. Je vous souhaite plein de belles choses. Je sais que vous travaillez en ORL. Moi, j'ai toujours besoin de l'ORL. Alors, plein de belles choses à vous. À bientôt.
Bon. On vous voit dubitative. Vous ne savez pas, alors un petit indice supplémentaire.
Si nous t'es printemps pour nous t'es parler, coller.
Si, ce clin d'œil, c'était Jocelyne Béroir. Elle était récemment de passage dans les studios de RFI pour rendre bien sûr visite à Monsieur Claudie Sillard. Alors, vous, c'est une autre voix de Cassav que vous avez choisie. On vous comprend, hein, parce que cette voix, elle est chaude et elle fait plaisir à entendre. C'est Jacob Desvarieux. Tout de suite, on l'écoute avec Oulé.
Civilisation pas manier, c'est où celle qui est menée. La peau n'a pas qu'à trouver. Noir de nous qui est goûté. En qui j'en la nati secret. Oula. 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 Là où va nous qui est arrivé. C'est la limite qu'a créé. Nous qui comprenons la peau.
Alors, nous sommes toujours en votre compagnie, professeur Marie-Josée Tanoano, portrait dans Priorité Santé. On découvre votre parcours, hein, présidente, on l'a dit tout à l'heure, de la société ivoirienne d'ORL, chef du service ORL à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, pédiatre également. Vos étapes du parcours, peut-être quelques mots pour commenter ce choix musical que vous nous aviez soufflé.
Je pense que le rythme déjà me plaît énormément. Et puis, Cassav, c'est un groupe mythique qui est venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Et correspond à, disons, une période, je veux dire, très, très heureuse de ma vie. C'était le début des années étudiantes et l'insouciance. Et puis,
vous avez zouké.
Beaucoup.
Vous avez beaucoup,
beaucoup zouké. Beaucoup, oui. J'adorais ce rythme. Donc, oui, j'aimais beaucoup le groupe Cassav. En tout cas, merci à Jocelyne parce que... Ouais, ouais.
Ben, un petit clin d'œil, ça fait jamais de mal. Maman, mamie, on a entendu tout à l'heure ces mots. Hein. On l'a entendu depuis le début de cette émission, pas mal utilisé dans le cadre professionnel pour vous désigner, professeur Marie-Josée Tanoano. Mais quelqu'un a plus que tout autre la légitimité de l'employer. Marie-Candice Anneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fille du professeur Marie-Josée Tanoano. On a enregistré cet entretien peu de temps avant notre rencontre avec le professeur. Alors, quand est-ce que vous avez compris, Marie-Candice Anneau, je parle de la petite fille que vous avez été, quand est-ce que vous avez réalisé quel était le métier précis qu'exerçait votre maman?
Alors, ça a été la première fois que je suis donc allée à son bureau. Donc, je l'ai vue avec une blouse blanche et des gens qui l'appelaient professeur, docteur, etc. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était médecin.
Alors, justement, on ressent quoi précisément lorsque l'on voit pour la première fois sa maman avec cette blouse blanche, avec finalement autour d'elle pas mal de gens qui l'écoutent, qui la respectent et d'une certaine manière aussi qui lui obéissent?
Beaucoup de fierté, on est content que ce soit notre mère, parce qu'elle a fait quand même quelque chose, on va dire, de grand, parce que toutes les femmes ne sont pas professeurs de médecine, surtout en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée au plus haut de ce qu'elle pouvait, et c'est vraiment une fierté de savoir que c'est notre maman, mais c'est aussi du coup la pression de faire autant.
Alors justement, Marie-Candice Anneau, vous avez choisi un autre destin, un autre chemin professionnel. Quelle a été sa réaction? Encouragement, déception?
Alors ma mère, c'est quelqu'un qui m'a toujours compris, qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours écoutée. Donc quand je lui ai expliqué mon projet professionnel, elle a tout de suite été à l'écoute, essayé de comprendre, donc essayé de parler avec des gens qui s'y connaissaient, de voir. Donc elle n'a pas exprimé une déception parce que je n'ai pas fait médecine ou quoi, mais elle a plutôt essayé de m'aider et de m'aiguiller pour aller avec précision vers le métier auquel j'étais destinée, donc en fonction de mon caractère, de mes compétences, etc.
Alors, il y a cette écoute, mais dans son parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui a influencé, orienté, Marie Candissano, vos propres choix, là encore, bien sûr, du côté d'un métier, mais aussi de la vie en général?
Alors, c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui, mon métier que je vais exercer, j'ai envie de l'enseigner. Donc, ça, je pense que ça doit venir du fait que je la vois, elle, enseigner, transmettre son savoir. Je la vois faire ça tout le temps. Donc, je pense que ça vient de là, mon envie d'enseigner, de transmettre. Après, maintenant, pour ma vie personnelle, on va dire en dehors du métier, j'ai bien envie d'être une femme comme elle, donc une femme totalement accomplie et professionnellement et personnellement, parce qu'elle a des enfants, elle n'a pas failli à notre éducation, malgré le fait de l'emploi du temps très chargé, etc. Elle a toujours été là pour nous. Je lui en serai toujours reconnaissante, parce que quand on a une maman très occupée, etc., il peut arriver des fois où elle n'est pas disponible, mais moi, ma mère a toujours été là pour moi à tous les moments de ma vie.
Alors, avant de vous laisser tranquille, j'ai une petite série de questions comme ça, un petit peu en rafale. Marie Candissano, qu'est-ce qui la fait rire?
Déjà, quand on lui raconte des blagues comme tout le monde, mais il y a aussi, quand par exemple, je vais lui rappeler, par exemple, certains moments qu'on a pu vivre il y a quelques années, quand j'imite des gens, parce que des fois, j'imite ses sœurs, ses frères et tout ça. Donc, ça va être souvent ça, mais la plupart du temps, c'est, on rigole d'un film, de voilà.
Du quotidien. Et qu'est-ce qui l'agace?
Quand les gens critiquent autour d'elle, elle a horreur de ça. Elle a horreur des personnes qui sont nonchalantes, qui sont lentes. Elle n'aime pas ça. Donc ça l'agace au plus haut point.
Et qu'est-ce qui la met en colère, là, quand c'est au-dessus de simples agacements, mais des vrais sentiments de colère?
Le mensonge. Elle ne supporte pas. Elle préfère que tu lui avoues quelque chose qui ne lui fera pas plaisir, que tu lui mentes.
Alors, c'est pas bien de dire du mal de ses parents. Malgré tout, vous avez un petit défaut en tête?
Elle est trop perfectionniste. Par exemple, quand on lui ramène une note qui est plutôt correcte, donc on est content d'avoir par exemple un 14 ou un 15, elle te dira, donc elle va te dire bravo ma fille, mais tu pourrais faire mieux. Donc quand c'est un moment où tu es hyper content de ta note, des fois tu es un peu déçu parce que tu te dis, ah ma maman n'est pas très contente, elle n'a pas la satisfaction que je voudrais qu'elle ait. Je pense que son défaut, c'est ça, un peu trop perfectionniste.
Exigence perfectionniste, il y a pire comme défaut, non?
Oui, je crois.
Est-ce que ça vous semble déplacé, professeur Marie-Josée Tanoano, quand on demande à une femme qui réussit, qui a fait carrière, qu'on lui demande est-ce que c'est dur d'être mère et pro? Est-ce que vous trouvez ça vexant qu'on pose ces questions aux femmes et qu'on ne demande pas à un père est-ce que c'est dur d'être pro et père?
Non, cela ne me vexe pas. Parce que je me dis que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'être professionnelle, comme on dirait, jusqu'au bout, et d'être mère en même temps, femme au foyer, enfin femme et tout. Parce que...
Est-ce que c'est vrai particulièrement en médecine et particulièrement en Afrique?
Oui. Il faudrait déjà avoir un conjoint qui comprenne. Je me souviens de certaines de mes amies qui ont eu d'énormes difficultés, ne serait-ce que de par leur volonté de vouloir aller loin dans leur carrière. Cela a créé des problèmes parce que en Afrique particulièrement, et même jusqu'à nos jours, la belle famille est souvent présente dans le couple. Et de voir la femme qui essaie de s'émanciper, mais d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, est souvent mal vue. Et on a l'impression que c'est elle qui veut porter la culotte à la maison ou alors qu'elle délaisse son foyer et tout ça. Et donc, il y a toujours des remontrances, toujours des difficultés. Et puis, quoi qu'on dise à la maison, en tout cas en Afrique, pour ce que je connais, un père ne remplacera jamais une mère à la maison. Parce que chez nous, les hommes ne font pas certaines tâches qui sont totalement dévolues à la mère. Et donc, on est obligé d'assumer à la maison, dans l'éducation des enfants et au point de vue professionnel. Parce que, par contre, au niveau du boulot, on fait pas de différence entre les femmes et les hommes. Donc, on a les mêmes exigences au boulot, sachant qu'à la maison, nous avons également nos exigences.
Professeur Marie-Josée Anon, est-ce que vous êtes féministe?
Je n'avais pas l'impression, mais j'ai la préparation peut-être de cette émission ou bien alors les questions me font croire que finalement, oui, je suis un peu féministe.
Féministe et admirative. Quand on vous a demandé de citer une personnalité politique africaine qui vous inspire, vous avez parlé d'un moment et d'une personne. Cette date, c'est le 11 février 1990. Après 27 ans d'incarcération, Nelson Mandela est, on va dire, enfin libéré de prison.
Mes amis, mes camarades, et mes compagnons sud-africains. Je vous salue tous. Au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté, je me tiens devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple.
Premier discours du balcon de la mairie du Cap, ces mots d'homme libre. Professeur Marie-Josée Tanoano, qu'est-ce que vous retenez de ce moment et au-delà de cette personne d'exception capable d'incarner l'injustice, la liberté, le courage et aussi de renoncer au pouvoir?
C'était, on dirait que c'est un grand homme comme on n'en voit pas beaucoup en Afrique. Moi, je me souviens toujours quand j'étais beaucoup plus jeune pendant ces années de prison. C'est pas quelqu'un qu'on connaissait ou je m'intéressais pas particulièrement à la politique. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire en parlait souvent. Il le citait dans ses discours. Il faisait souvent référence à cette personne qui était en prison juste parce qu'il réclamait, en fait, plus de justice dans son monde, dans son pays. Et donc, quand il a été libéré, ça a été un grand moment en Côte d'Ivoire parce que on a tout de suite, disons, rapproché sa liberté de ce que le président Oufouette nous disait, ou parce qu'il militait chaque fois et on disait, ah, il a eu raison de croire que ce monsieur pourrait être libéré à un moment donné. Et puis après, on s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a subi, tout, c'était quelqu'un qui était resté vraiment homme, on va dire, parce que il a pardonné, il n'avait pas vraiment de rancune.
Après, il a avancé.
Il a avancé, il a été président, et puis c'est pas rattaché au pouvoir, il a fait, je crois, un seul mandat.
Un seul mandat.
Et puis après, il s'est retiré.
Il a su laisser
les autres apporter également ce qu'on voit pas beaucoup en Afrique, malheureusement. Et ça a été vraiment un modèle, comme ça. Je me suis dit, c'est quand même possible en Afrique qu'il y ait des personnes de ce niveau-là, de cette trempe-là.
Incarner la loyauté. Alors, vous citez une femme aussi, hein, quand on vous demande qui vous tient à cœur, quelle personnalité vous a marqué. Une femme qui n'est pas simplement la femme d'eux. Elle a raconté son destin dans un livre qui est devenu dans l'histoire de l'édition le plus important tirage, hein, d'un livre de mémoire. Cette autobiographie, c'est « Devenir Michelle Obama ».
Ce qu'a fait mon père, et je le dis pour tous les hommes ici présents, mon père m'a toujours incluse dans tout. Ce n'était jamais juste lui et mon frère. Quand mon frère apprenait quelque chose, j'apprenais avec lui. Alors, quand il a eu sa première paire de gants de boxe, j'ai eu une toute petite paire de gants de boxe. Et on descendait dans le sous-sol, on apprenait à donner quelques coups. Mon père était le genre de personne à dire « Vous devez apprendre à vous débrouiller ». Donc, j'ai eu un père très affectueux qui m'a toujours traité comme son égal. Il ne m'a jamais dénigré. On a appris à mon frère à me respecter. Et si je vous raconte ça, c'est parce que souvent, lorsque les gens se demandent « Comment les filles deviennent fortes ?», nous nous tournons vers leur mère. Mais les hommes qui font partie de leur vie y sont pour une grande part. Et vous, messieurs, ne sous-estimez pas le rôle que vous jouez pour que les filles se sentent aimées et sûres d'elles. C'est cette chose-là que j'ai énormément reçue. J'avais un père qui m'aimait, un grand frère qui m'adorait, des grands-pères qui me choyaient. C'est comme ça que j'ai grandi. J'avais le droit de m'exprimer.
Alors, dans cet extrait qu'on a choisi, hein, Michelle Obama aborde justement le positionnement des filles dans la famille, leur construction, parfois la difficulté de faire leur place. Professeur Marie-Josée Tanoano, les filles, elles ont leur place en Côte d'Ivoire, elles ont leur chance?
Oui, je dirais que de plus en plus, oui, les filles ont leur chance et presque autant que les garçons. Dans ma famille, à moi, nous sommes assez nombreux. Il y a 4 filles et 4 garçons. Et moi, je suis la 4e des filles, et j'ai que des aînés filles, et puis après, moi, il n'y a que des garçons. Et mon père, il nous a élevés, on va dire, de la même façon, il nous a donné les mêmes chances scolaires, et moi particulièrement, je peux dire que j'ai été vraiment choyée par mon père, qui me portait jusqu'au bout. J'étais dans une école privée, mais mon père était toujours présent, quelle que soit la classe, tous mes enseignants connaissaient mon père parce qu'il était toujours présent dans ma vie scolaire. Même quand j'étais étudiante, il venait rencontrer mes enseignants et mes amis. Toute l'université, toute ma faculté connaissait mon père. Je prenais de l'âge, mais pourtant, il était toujours présent et tout le monde en parlait.
Mais ça vous rapproche de cette expérience qu'a Michelle Obama. Peut-être qu'aussi, les filles qui ont leur place dans la société, il y en a qui se débrouillent toutes seules, mais c'est aussi la place que veulent bien leur donner les pères.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point important. Parce que moi, mon père, il m'a accompagnée. Le jour de mon bac, il était présent. Quand je devais passer mon doctorat, c'était pareil pour mes préparatifs de ma thèse. Il était toujours présent. Pourtant, ma mère est institutrice, mais elle n'était pas aussi présente dans mon éducation scolaire que mon père, qui faisait vraiment tout pour moi. Et pour ça, vraiment, je l'en remercie.
Qu'est-ce que vous retenez qui vous marque, qui vous plaît dans le parcours de Michelle Obama? Je disais tout à l'heure, elle n'est pas simplement femme de l'ex-président. C'est quelqu'un, maintenant, elle fait le tour de grandes salles partout dans le monde pour parler de son parcours, pour parler de son expérience. Qu'est-ce que vous retenez de sa personnalité?
Vraiment la femme battante qui s'est construite, parce que elle n'est pas d'une famille aisée où tout était à portée de main. Non, elle s'est construite. Elle avait des objectifs dans la vie et elle a toujours tout fait pour atteindre les objectifs qu'elle se fixait. Elle a voulu être avocate. Elle a été avocate. Après, elle a voulu travailler dans des milieux plus associatifs. Elle a été jusqu'au bout. Et après, elle a voulu que son époux soit président, parce que si elle avait peut-être pas accepté, à mon avis, il aurait arrêté, il serait pas allé jusqu'au bout non plus de son objectif. Donc, tout ce qu'elle a voulu dans la vie, elle est allée jusqu'au bout. Elle s'est battue pour avoir ce qu'elle a. Mais tout en demeurant quand même une femme assez simple. J'aime bien, enfin, on va dire la mode, j'aime bien sa façon de s'habiller, j'aime bien sa simplicité. Voilà.
Tout vous plaît chez elle.
Je crois.
Tout vous plaît chez elle. Alors, vous utilisez le terme de battante, hein, ça va être la fin de cette émission. Le terme de battante, il est revenu aussi avec plusieurs des interlocuteurs qui nous ont parlé de vous. Battante, c'est un mot qu'on retrouve aussi pas mal chez des femmes qui font de la politique. Professeur Marie-Josée Tanoano, on a compris, vous êtes médecin dans la peau jusque et dans l'âme. Médecine plutôt que la politique. Ça vous a jamais tenté, la politique?
Non.
Pourquoi?
Peut-être que parce que l'expérience de la politique en Afrique m'a un peu déçue. C'est vrai que quand j'écoute les parcours politiques ou je vois comment la politique est faite peut-être ailleurs, ça m'aurait peut-être tenté. Mais en Afrique, non, vraiment pas. Vraiment
vous préférez pas. Faire ce que vous savez bien faire.
Voilà, être vraiment dans le technique plutôt que dans la politique que je vois, qui c'est que vraiment beaucoup de grandes idées, mais pas beaucoup d'actions.
On revient au début, utile.
Utilité, voilà.
Merci beaucoup, professeur Marie-Josée Tanoano, de vous être livrée, confiée à notre micro de ce portrait de priorité santé. Merci d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs de RFI. On va se séparer en musique avec une autre femme qui tient une grande place dans votre estime, c'est Whitney Houston. Alors, vous avez choisi l'une de ses chansons les plus connues, I Will. Je vous laisse terminer.
Always love you.
Et ben voilà, Whitney. Et nous allons saluer toute l'équipe qui a préparé et réalisé cette émission. Assetou Samaké, Boris Bichit à Abidjan, Didier Bleu à Paris. Et à demain pour une nouvelle rencontre dans Priorité Santé.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.